Bruno Tertrais, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur adjoint de la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bruno Tertrais, ce matin, donc l'ouverture du défilé à pied a été assurée par les 10 pays membres de l'initiative européenne d'intervention créée en 2018 à l'initiative d'Emmanuel Macron. Cette initiative, elle a donc un an. Alors, en un an, qu'est-ce qui a été mis en place?
Ce qui a été mis en place, c'est un ensemble d'exercices, de formations, de projets communs. Mais vous savez, l'initiative européenne d'intervention, qui se situe en dehors du cadre de l'Union européenne, ça n'est pas le seul axe de l'Europe de la défense. C'est une partie, une seule des initiatives qui sont lancées dans ce chapeau, sous ce chapeau qu'on appelle en général Europe de la défense. Il s'agit d'aider les pays européens à forger une culture stratégique commune pour pouvoir mieux se préparer à des opérations communes.
Mais alors, comment est-ce qu'on forme cette culture commune?
Ben d'abord par des échanges d'officiers, des officiers français, polonais ou lituaniens ou britanniques qui peuvent être postés dans les unités étrangères. Ça se fait par des échanges, donc ça se fait par des formations communes, ça se fait par des exercices. C'est un projet à long terme. Il s'agit en gros d'essayer de faire en sorte que les Européens aient des visions partagées de ce que c'est que la défense pour pouvoir mieux agir en Européen si l'occasion se présente.
Et alors, pourquoi ce groupe était-il le premier à défiler à pied aujourd'hui?
Bon, parce que c'est une initiative française et que Emmanuel Macron a voulu marquer le coup de cette manière. Ce qui est intéressant avec cette initiative, c'est qu'elle se situe en dehors du cadre de l'Union européenne pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans l'Union européenne, l'Union européenne, c'est un cadre assez lourd, donc on peut pas tout faire dans le cadre de la défense, même si ça avance aussi au sein de l'Union. Et la deuxième raison, c'est de pouvoir aussi impliquer les Britanniques, puisque les Britanniques, s'ils sortent de l'Union européenne, on voudra quand même qu'ils soient associés à ces projets européens de défense.
Ils resteront, le Royaume-Uni restera en cas de, enfin, évidemment, de Brexit, du coup, le Royaume-Uni va rester dans ce type d'initiative commune?
Ah ben, il n'y a aucune raison que le Royaume-Uni parte, et je dirais même qu'ils sont plutôt désireux de rester, d'autant plus qu'ils sortiront, puisque ça ne se... Encore une fois, on n'est pas dans le cadre de l'Union européenne.
Oui, donc ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Mais alors du coup, est-ce que Emmanuel Macron a réussi à avoir cette armée européenne justement pour cette Europe de défense dont il a toujours défendu l'idée, hein, le président français a toujours défendu cette idée ardemment?
Non, on ne peut pas dire qu'il ait toujours défendu l'idée d'une armée européenne. C'est une expression malencontreuse et malheureuse qu'il a employée de manière un peu improvisée au moment des commémorations du 11 novembre. Ce n'est pas vraiment un concept, c'est une expression qui veut dire qu'il faut que les Européens coopèrent ensemble. Il n'est pas question, il n'a jamais été question, même dans la tête du président, il l'a dit d'ailleurs, de faire une armée au sens de l'armée nationale. Pourquoi? Parce qu'une armée, ça doit être commandé par une autorité politique unique. Or, en Europe, on en est loin, on n'en prend pas le chemin. Donc, si vous voulez, l'expression armée européenne, c'est une manière de dire il faut que les Européens coopèrent davantage ensemble sur le plan militaire. Là où Emmanuel Macron a donné effectivement un coup d'accélérateur à ses projets, c'est que, en gros, il a bénéficié du fait que du côté américain, les tensions qui sont évidemment manifestes depuis l'élection de Donald Trump, qui ne veut pas voir l'armée européenne, mais qui surtout estime que l'OTAN ne marche pas, puisque les Européens, selon lui, ne payent pas assez. Et du coup, il donne moins de garanties de défense de l'Europe. De l'autre côté, on a la Russie qui se fait plus menaçante, en tout cas du point de vue des Européens de l'Est. Et puis enfin, on a la Grande-Bretagne qui annonce le Brexit. Donc tout ça a poussé Macron à donner un coup d'accélérateur sur les projets qui concerne l'Europe de la défense. Alors, il y a cette initiative dont on a parlé, mais il y a aussi, et c'est très important, un fonds européen, un fonds budgétaire européen qui va soutenir des projets communs qui a été créé par la Commission il y a un an et demi. Et puis, il y a aussi d'autres initiatives, ce qu'on appelle la coopération renforcée, qui va permettre des programmes militaires nouveaux entre pays européens notamment.
Et alors hier, le président français a tenu un discours, le traditionnel discours devant la communauté militaire au siège du ministère des Armées. Il a annoncé la création en septembre prochain d'un commandement dédié à l'espace qui sera au sein de l'armée de l'air et qui deviendra à terme l'armée de l'air et de l'espace. Est-ce que c'est une manière de se mesurer en quelque sorte aux États-Unis, à la Chine et à la Russie, qui sont un peu des pionniers en matière de conquête spatiale, si on peut dire ça?
Bon, je crois qu'on n'essaye pas de se mesurer à qui que ce soit. C'est pas une compétition de cours d'école. Je crois que tout simplement toutes les grandes armées, toutes les grandes forces occidentales ont besoin d'investir l'espace qui, que ça plaise ou non, est devenu un terrain de compétition stratégique et dans lequel on a besoin d'autant plus de s'investir que l'espace, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert depuis longtemps aux communications, ça sert de plus en plus aux renseignements. Et il faut surveiller depuis l'espace, il faut communiquer depuis l'espace, et il faut aussi surveiller ce qui se passe dans l'espace. Donc, je crois que c'est tout simplement une évolution naturelle de toutes les grandes forces armées dont la France ne pouvait pas rester absente. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on coopère depuis très longtemps entre européens, puisqu'on a créé dès les années 1990, sous l'égide de l'Union européenne, désormais, un centre d'interprétation satellitaire qui est situé en Espagne, où on interprète en commun des photos satellitaires. Donc voilà, ça sert à beaucoup de choses l'espace, et la France ne pouvait pas rester en dehors de ce grand mouvement général.
Et alors la France, quel est son rôle finalement? Revenons un peu sur l'Europe. Est-ce que la France joue, enfin quel est le rôle que la France joue finalement? On l'a vu, Emmanuel Macron a inauguré le Suffren à Cherbourg cette semaine, premier d'une série de 6 nouveaux sous-marins nucléaires. Est-ce que la France est à la hauteur des enjeux finalement actuels?
Bah, ce qui est certain, c'est qu'elle est d'abord l'un des trois seuls pays du monde aujourd'hui, États-Unis, France, Grande-Bretagne, qui sait projeter des forces militaires en volume important pour une durée significative, même si la Russie revient un petit peu sur ce terrain aujourd'hui. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'elle est, je pense, on peut dire, une force d'entraînement extrêmement importante pour ces projets d'Europe de la défense. Et d'une certaine manière, on va aussi bénéficier du Brexit pour renforcer les capacités communes de l'Union européenne, puisque jusqu'à présent, Londres était un petit peu l'obstacle à la mise en place de structures de commandement d'opérations de l'Union européenne. Londres a toujours voulu qu'on ne fasse pas d'ombre à l'OTAN, si vous voulez. Alors, il n'est pas question de remplacer l'OTAN. Il n'y a pas du tout de consensus en Europe pour dire maintenant la défense de l'Europe contre une menace militaire extérieure, une menace classique de type Russie, ça doit être assuré par les Européens seuls. Non, ça, il n'en est pas question. L'OTAN, ça reste quand même le cadre de référence pour la plupart de nos partenaires. Ce dont il est question, c'est, et ça va être plus facile, je pense, sans les Britanniques, même si on peut regretter le départ de Londres, c'est de mettre en place des instruments qui permettent aux Européens, lorsqu'ils le souhaitent, d'opérer ensemble sans les Américains, c'est-à-dire que lorsque les Américains ne veulent pas intervenir quelque part, et donc d'assurer de plus en plus leur propre sécurité.
Et alors, une question sur la future, peut-être, présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est nominée pour prendre la tête de cette commission. C'est l'actuelle ministre allemande de la Défense. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, que l'on choisisse une ministre de la Défense pour diriger la Commission européenne et pas un ancien ministre des Finances, comme c'était le cas avec Jean-Claude Juncker? Est-ce que pour vous, ça veut dire quelque chose de précis?
Je ne suis pas sûr que Madame von der Leyen ait été choisie parce qu'elle a été ministre de la Défense, même si elle s'est plutôt bien débrouillée en tant que ministre, parce que c'est pas facile d'être ministre de la Défense en Allemagne. Donc, je ne sais pas si ça a été principalement pour cela. En tout cas, j'en doute. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ça va contribuer, si elle est confirmée, puisqu'elle doit être encore confirmée par le Parlement européen, ça permettra d'insuffler une certaine culture de la défense au sein de la Commission, qui en manque parfois, et ce n'est que très récemment que la Commission s'est un peu saisie des affaires de défense, notamment en créant ce fameux fonds européen, ce fonds budgétaire de défense. Donc ça aidera, je pense, ça ne peut qu'aider, si elle est confirmée, à insuffler cette culture de défense et donc à faire en sorte que la défense fasse vraiment aujourd'hui partie et pour l'avenir partie du projet européen.
Merci beaucoup Bruno Tertrais d'avoir été avec nous dans RFI Midi. Je rappelle que